pluriel. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan au micro de Judaïsme Pluriel pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. Ce soir, la photo dans tous ses états. Avec Judith Martin-Razi et Stéphane Marty. Depuis les premiers essais de Nicéphore Niépce entre 1816 et 1818, depuis l'invention de la photographie entre 1825 et 1829 et de son application, l'appareil argentique, 1850, depuis Steve Sasson, employé de la firme Kodak, qui inventa la photo numérique en 1975 et de son application, l'appareil photo numérique, vers 1988, la photographie et le monde de la photographie ont connu bien des évolutions. Je signale l'étude commandée par le ministère de la Culture de l'époque au cabinet Itac en 2013 et dont le rapport final sur le métier de la photographie est très complet. Fleur Pellerin, ex-ministre de la Culture dans le deuxième gouvernement Valls, avait annoncé la création d'un Conseil national de la photographie, mais j'avoue ne pas savoir ce qu'est devenu ce projet. Faute d'informations, je pense qu'il n'y a pas eu de suite. Il n'empêche que de grandes manifestations de la photographie, comme les rencontres de la photographie de la ville d'Arles pendant l'été, chaque année, continuent leur travail de transmission et de lien social. Arles, incubateur de culture, c'est l'adjectif de Sam Sturze, qui est commissaire d'exposition et spécialiste de la photo. Nous avons ce soir sur le plateau deux personnes hautement spécialisées. Judith Martin-Razi, artiste photographe et, comme nous allons le voir, qui a exercé bien d'autres, dans bien d'autres domaines de la photo. Ensuite, Stéphane Marty. Il est tireur, c'est comme ça qu'on appelle son métier. Et comme nous le verrons, dixit Judith, ça a une importance capitale pour la réalisation d'une photo de qualité. Il existe bien sûr d'autres centres de la photo, j'ai parlé d'Arles, mais il y en a d'autres comme l'École nationale supérieure de la photo, comme les Beaux-Arts, et sûrement d'autres que je ne connais pas ou que j'oublie, mais voilà, il y a une grande activité. Alors, parlons maintenant de Judith, comme je fais toujours, je présente chacun de mes invités. Alors, Judith est pendant 30 ans, elle a été peut-être plus que 30 ans, elle a été photographe reporter. Mmh. Elle vient de d'une presse spécialisée, c'est la presse sous-marine, spécialiste de la plongée profonde en apnée. Et elle est d'ailleurs la co-réalisatrice pour Jacques Le Dauphin. C'est un documentaire sur Jacques Mayol, qui est une personne qui a fait de grands exploits en apnée dans le monde. Photographie journaliste, elle a travaillé pour des grandes revues comme Océan, j'en citerai pas d'autres, mais il y en a d'autres, pour des agences photographiques comme Sigma et Keystone, c'est ça, entre autres, voilà. En tant que photographe de presse, elle a couvert une grande partie du globe. Son œil de reporter traque l'insolite, la fragilité, la violence de l'humanité, l'humour ou l'instant magique d'une lumière ou d'un reflet. Sans appareil photo, je suis aveugle, dit-elle. Judith a fait de nombreuses expositions à Paris, à New York, et puis dans la région, à Marseille, à Martigues, en Arles. Et puis, il faut dire que Judith est aussi une militante engagée dans le féminisme. Quelques-unes de ses expositions, d'ailleurs, sont tout à fait centrées. Militante, portrait d'elle au pluriel, la magie noire. Elle a été photographe de plateau durant 5 ans pour le tournage du film « L'écume des mers » à Marseille et à Montreuil. En avril 2012, exposition de plumes, de poils et de cheveux. Ou comment mettre dans tous ses états le système fanière pour qu'il devienne art. Qu'est-ce que c'est le système fanière?
C'est tous les poils, les plumes, les cheveux, c'est voilà. Tout ça.
Bon. Le 6 et le 7 avril prochain, Judith, tu vas inaugurer une nouvelle exposition dont le thème est « Femmes, corps, genre, sexe dans tous leurs états », dont nous parlerons à la fin de l'émission d'une manière plus précise. Judith est venue plusieurs fois à cette émission. Je rappelle, en 2013, « Photographie de la Shoah, entre histoire et mémoire ». En 2013 toujours, on a parlé de la valise mexicaine. En 2015, promenade littéraire, parce qu'elle aime beaucoup la littérature aussi, et elle aime beaucoup lire. En 2015 toujours, Maya Surdut ou la révolution permanente. Et puis en 2017, donc pas très longtemps, l'art comme témoignage, et on avait parlé de Rosemary Cossé. Voilà, je vous ai présenté Judith. J'ai en face de moi Stéphane Marty. Mais alors Stéphane Marty, c'est la première fois que je te vois. Donc à part le fait, je sais que tu es tireur, mais on va parler de ce métier, j'aimerais que tu nous dises quelque chose sur toi.
Bien bonsoir.
Bonsoir.
Je suis Stéphane Marty, j'ai 49 ans et j'habite Marseille. Et je suis, mon métier est donc d'être tireur photo au laboratoire photo rétine qui se trouve donc à Marseille, rue d'Italie.
Rue d'Italie. Il y a longtemps que ce laboratoire existe ?
Ce laboratoire a été créé il y a maintenant 9 ans. Mm-hmm. Nous avons, avec mon associé, repris l'activité d'un éminent tireur de Marseille qui s'appelait Jacques Bimbini, mm-hmm. pour ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont connu. Et donc nous avons pris la suite. Il nous a introduit dans le métier, nous a aidé à démarrer. Nous a formés pour ce qu'on ne savait pas faire. Et nous avons développé un laboratoire à Marseille donc, qui s'appelle Rétine, qui, outre son activité de laboratoire, est également un lieu d'exposition.
D'accord.
Et une librairie de livres photos, et également un lieu de formation où on va venir apprendre la photo, que ce soit la prise de vue, la retouche ou le tirage.
C'est un lieu de formation aussi,
bon,
très bien.
Voilà.
Mais alors, tu as dit qu'il y a 9 ans que vous avez monté, vous avez refait cette reprise, là.
Oui.
Tu as 40 et quelques années. Donc, avant, tu avais fait quoi?
Alors, je viens d'un univers totalement différent. J'ai une formation de base d'ingénieur.
Ah bon?
Donc, j'ai
en
fait ingénieur généraliste.
Ah, d'accord.
J'ai fait une partie de mon acte de ma vie professionnelle à monter des entreprises dans l'industrie. Ou nucléaire, ou l'industrie médicale.
Enchanté, je suis aussi ingénieur.
Voilà. Ça mène à tout.
Voilà, exactement.
C'est important. Voilà. C'est, bon. C'est une autre vie, une nouvelle vie.
Bon, bah écoutez, après cette présentation, je vous propose une petite pause musicale.
Allons-y.
François ?
Non, ça part pas.
Que se passe-t-il ?
On continue.
Apparemment, François a un petit problème. Donc, on va continuer. Et puis, quand tu seras prêt, tu nous le diras. Ah, il me dit que c'est prêt. Alors, ah, d'accord. Bon, alors, il n'est pas prêt, on va continuer. Judith, j'ai dit tout à l'heure dans la présentation que tu avais travaillé dans de multiples domaines, hein, et en particulier le féminisme, la mer et les poissons, et le reportage. Alors, j'en profite pour poser la question suivante. Quelles sont les grandes catégories de la photo ?
Alors justement, elles sont nombreuses. C'est un des avantages de la photographie, c'est qu'on peut avoir diverses affinités et pouvoir travailler. Donc il y a la photo de mode, il y a le studio, il y a le reportage, il y a les prises animalières, il y a le sport, il y a mille façons de travailler. Donc, alors après, on peut travailler dans la presse, ou on peut travailler comme documentaliste, ou faire s'occuper de faire de l'iconographie pour des livres, des articles, etc. Donc, il y a mille façons d'être photographe. Voilà.
Et je suppose que pour chacune de ces spécialités, il faut à la fois un appareillage très spécifique, une technique aussi, une technique de prise de vue et peut-être une technique de tirage. Stéphane.
Alors, il faut effectivement distinguer plusieurs types de travaux. Il y a des travaux dits de commande, des travaux de photojournalisme par exemple, des travaux qui mènent vers des expositions. Mais dans tous les cas, on est sur des métiers très spécifiques, très particuliers, qui s'abordent de manière très différente. Mmh. Et le tirage n'est pas toujours au bout du chemin. Une grosse partie de la photographie se consomme de manière numérique. Oui. Elle passe directement de l'appareil photo
à l'ordinateur
jusqu'à l'organe de presse, par exemple, ou un journal, quel qu'il soit. Voilà. Donc, après, une partie de cette production, lorsqu'un photographe fait un travail d'auteur et qu'il a envie un petit peu de sortir des photos de son ordinateur, vient chez nous pour produire des expositions.
Dans quel cas, justement, la photo aboutit à du tirage ? Bien sûr, pour des photos d'art, ça c'est clair, mais aussi peut-être des photos de mode, je ne sais pas, je te pose la question.
Alors la photo devient papier lorsqu'il y a une volonté de montrer son travail, autrement que habituellement, que sur un écran. Donc ce sont des expositions, principalement. Photos, il y en a pas mal qui se passent à Marseille, dans les musées et partout en France. Et après, il y a aussi des photographes qui vendent leurs œuvres. Donc, qui font des cadeaux aussi. Oui. Travail des auteurs qui vendent leurs travaux. Donc,
à ce moment-là,
ils tirent leurs photos. Voilà.
Bien. Bon, je crois que François est prêt, donc on va pouvoir écouter le premier morceau.
Be lonely, you won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Thank you.
me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. And there's no love for nobody else.
Eh bien, vous écoutez l'émission Judaïsme Pluriel et je vous rappelle que ce soir, en compagnie de Judith Martin-Razi et Stéphane Marty, nous parlons de la photo dans tous ses états. Alors, on a évoqué les différentes catégories de photos. Hein, on a dit photos publicitaires, documentaires, photos de famille et puis autre chose, tout ce que vous avez dit. Et là, je voudrais vous poser une question. Peut-être qu'elle sera... pas trop bienvenue, je vois Judith qui sourit. Je voudrais, sans trop rentrer dans la technique, que vous me disiez quelques-uns, que vous me citiez quelques-uns des facteurs qui vont entrer en compte quand on va faire une photo. Je donne un exemple, un banal, la mise au point, où on veut faire une photo nette ou alors on veut faire une photo bougée. Mais puis je m'arrête là parce que c'est vous les spécialistes, c'est pas moi.
Alors, on a un peu parlé en aparté et on te disait que, en fait, au départ, il fallait définir un peu ce qu'était la photographie et que oui. La photographie, eh bien, c'était de la lumière, c'était de la vitesse. De la vitesse, évidemment, donc on a un objectif, un obturateur, il s'ouvre, il se ferme. On met un temps d'exposition plus ou moins long, voilà, donc on va jouer avec tout ça. Et effectivement, eh bien, Stéphane a dit, on écrit avec la lumière, on pense aussi avec la lumière, voilà, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Puis des fois, tu parlais du flou, bah, c'est une histoire de vitesse et d'ouverture. Et puis des fois on fait flou et on l'a pas voulu. Hein.
Ah oui, ça c'est un raté, ça c'est autre chose.
Non.
Mais des fois on a de bonnes
surprises. Eh bien justement, ce qui pourrait être considéré comme un raté n'est pas forcément un raté.
Ah.
Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est peut-être un peu compliqué de dire bah vous allez ouvrir à temps, vous êtes au 60e ou au 125e ou voilà, etc.
Donc, simplement, on sait qu'il faut ouvrir, c'est tout quoi. Hein, voilà.
Ouvrir ou fermer.
Ou fermer, oui, bien sûr. Elle a l'esprit de contradiction. Hein.
Donc voilà, oui, effectivement. Oui. Et si tu as beaucoup de lumière ou si tu n'en as pas. Effectivement, quand on travaillait en argentique, on travaillait différemment. Maintenant, avec les nouveaux capteurs que l'on a avec les appareils numériques, je pense que tu ne me contrediras pas, on peut presque photographier dans le noir complet. Quoi. C'est assez étonnant. Non. Donc voilà, ça aussi dépend de notre matériel et de la volonté. Je te disais aussi, une photo, ça se pense en amont. Hein. Alors, on ne parle pas de la photo qu'on fait pendant les vacances, de nos enfants, etc.
On
saisit un moment. Alors, effectivement, il y a des gens qui ont un peu plus un œil averti que d'autres. Mais, et c'est aussi important. Je veux dire, la photo de famille est aussi importante que les autres photos. Hein. Ce n'est pas du tout un art mineur. Mais tout dépend aussi de ce que l'on va faire. Mmh.
Oui, j'attendais aussi que vous me parliez, quand on fait une photo, par exemple, du cadrage. Ça aussi, ça compte,
oui.
Non ?
Oui, bien le sûr, cadrage. Il compte.
Et je dirais même, on en a parlé ensemble, du double cadrage.
Oui.
Alors, le double cadrage, qu'est-ce que c'est ? Je t'en ai parlé.
Oui, mais tu l'as très bien dit, alors vas-y.
Bon. C'est quand on fait une photo avec un premier cadrage dans laquelle on va implanter autre chose. Voilà, ça s'appelle un nouveau, mais je l'ai appris comme ça, hein, je ne l'ai jamais fait. Bon.
Mais ça peut être aussi un raté, là.
Ça peut être un raté, mais oui. Pas toujours.
Un raté bien heureux.
C'est ce que tu as dit, hein. On a des fois des bonnes surprises. Bon, voilà. Les contrastes, ça compte aussi, non? Mais ça c'est comme tu le disais, c'est penser la lumière.
Oui.
Et quand on prend une photo, c'est une question que je vous pose. Est-ce que, bon, on a le sujet, on a tout. Est-ce qu'on pense comme ça, par réflexe, au contraste qu'on va voir, au contraste de lumière, au contraste de couleur, au contraste de texture? Est-ce qu'on y pense ou alors bien ça vient, tac, d'un coup?
On peut faire aussi des essais.
On fait, hein.
Mais ça dépend si tu travailles, tu travailles en studio et que tu fais de la mode, la plupart du temps, ils font des essais. Alors avant, on faisait des essais avec des... j'ai perdu le nom là.
Polaroid.
Le Polaroid. Donc on faisait des essais avec les Polaroids.
Ah bon?
Bon, maintenant, on voit tout de suite ce qu'on a fait avec les appareils numériques. Mais oui, on fait des essais de lumière, de contraste et tout ça. Mais ça, c'est en studio. Quand tu es en reportage et que tu es en train de couvrir le Tour de France, là, tu ne vas pas faire d'essais, quoi. Tu es sur ton truc et tu shootes, quoi. Y a pas...
Alors, j'ai demandé maintenant à Stéphane quelque chose. Il y a une prise de vue, voilà, Judith a pris une photo, et à partir de là, elle te demande de faire un tirage. Et quels sont les éléments que tu vas choisir en fonction de ce que tu veux obtenir?
Donc là, on rentre dans le métier de tireur, proprement
oui.
dit,
oui.
Qui n'est pas juste sortir un papier, mais il y a tout un travail en amont, où on va donc échanger, discuter avec le photographe, Judith en l'occurrence. Pour essayer de comprendre quel est son projet, déjà, où est-ce qu'on va, quelle est l'histoire de cette photo, ou de cette série de photos. Ça, c'est important. Et ensuite, donc, on va donc ouvrir les images sur l'écran et regarder qu'est-ce qu'on a comme matière première, et voir ce que l'on peut nous proposer comme interprétation de l'image et comme évolution pour essayer d'en tirer le meilleur. Par rapport à la personnalité du photographe, par rapport à ce qu'on en connaît, et par rapport à son projet. Donc ça va être des choses, si on parle très simplement, ça va être remettre un peu de lumière par-ci, par-là, aider un regard, mettre un peu de contraste, densifier un peu les couleurs, densifier l'image. Voilà, ça va être toute cette interprétation, ce travail collaboratif. Donc moi, je vais dans un rôle où je vais proposer des ajustements.
Oui.
Le photographe dispose, toujours. Et notre relation, nous, avec Judith, c'est que je commence à bien connaître son travail, je sais où est-ce qu'elle veut aller, et donc, comme on en parlait un petit peu, je propose sans trop... je propose, en général, je tombe juste, plus ou moins, et elle est d'accord, et elle me dit non si elle n'est pas contente. Ah. Ça, c'est normal. Voilà, ça va être ça le travail préparatoire. Donc ce travail se fait à l'écran, ensemble, d'accord. À l'écran. On regarde l'écran ensemble.
Voilà. Avant même de faire des tirages papier,
Alors, on fait ce travail à l'écran, et ensuite, pour certaines expos, pour certains tirages, on va faire des tests. On va faire des morceaux d'images à l'échelle 1, parce que parfois l'écran il a une taille finie, le photographe souhaite une photo qui fait 1 mètre. Je n'ai pas d'écran qui fait 1 mètre. Et pour se rendre vraiment compte de l'image, de sa texture, de la couleur, des rendements, etc., on va faire un test avec un petit tirage de lecture. Donc c'est un bout d'image à l'échelle 1, et donc on présente ce bout d'image au photographe qui va nous dire « Ah ben non, trop jaune, trop vert, trop contraste, trop rouge, là ça va pas. » On ajuste jusqu'à ce qu'on soit content.
On soit d'accord, ok.
Voilà, pour aboutir au tirage final.
Et puis le choix du papier.
Ah, le choix du papier, bien sûr.
On va faire aussi un choix, effectivement, de papier. On a plusieurs références, des papiers mat, des papiers satin, des papiers très brillants, des papiers texturés, très granuleux, des papiers très lisses.
Et au niveau de la sensibilité du papier aussi, peut-être des papiers durs, enfin moi
les papiers, alors il y avait ça effectivement avant, donc en impression c'est un petit peu différent, mais on va avoir effectivement des papiers qui vont rendre plus de densité à une image qu'un autre. Et donc on va ajuster quelque part le papier au projet.
Ouais. Donc, au départ, c'est le projet, on sait ce qu'on veut, et après, on va ajuster tout ça. Voilà. Alors, tu as parlé de couleur, de jaune, de jaune. Est-ce qu'on travaille le noir et blanc comme le couleur ?
Le noir et blanc est une couleur et c'est plein de gris. Ce sont des valeurs de gris. L'objectif, c'est d'aller chercher les gris et de les faire émerger dans l'image. Encore une fois, toujours pareil, hein, en fonction du projet. Il y a des photographes qui cherchent des images extrêmement contrastes, avec des noirs, des blancs très francs, très durs.
Ça, j'en ai vu des tirages de toi que Judith m'a montré avec des noirs très intenses
très
et des blancs
magnifiques.
Oui. Et ça doit pas être facile à obtenir.
En fait, c'est paradoxalement un peu plus facile que des images avec beaucoup de gris. Parce qu'on va chercher justement à restituer au papier ces gris pour avoir une richesse forte. Et là, on a une autre machine au laboratoire qui est une machine particulière. Qui est un traceur. Traceur, c'est une grosse imprimante qui n'a que des niveaux de gris. En fait, j'ai 8 gris à disposition, alors qu'une imprimante classique en a que 2, voire 3. Et cette technique s'appelle la piézographie charbon. Ce sont des dilutions de charbon qui permettent de créer des noirs et blancs absolument fabuleux. Voilà.
Ah, très bien. Alors, on fait encore de la photo en noir et blanc ? On en fait beaucoup ? Ou c'est surtout de la couleur ?
Énormément. J'en fais.
C'est de la photo quoi, artistique ou autre chose ?
Alors, c'est de la photo artistique et nouée, non. Hein. On peut avoir des envies de faire des photos noir et blanc et d'illustrer un papier, un dossier avec de la photo noir et blanc. Hein.
Des archives peut-être aussi.
Pas plus. Mais, la vraie vie est en couleur, évidemment. Oui. Après, quand on part en noir et blanc, on essaie d'apporter quelque chose de différent. Le regard est différent en noir et blanc, on va aller chercher un peu plus les perspectives, la géométrie, les contrastes.
C'est sûr, c'est sûr. Je viens de voir, il y a très peu de temps, un film de Woody Allen, Manhattan, en noir et blanc. Eh bien, on voit New York en noir et blanc, et je crois que s'il était en couleur, on n'aurait pas eu le même effet.
Noir et blanc permet de se recentrer sur le propos, sur le strict sujet. Nous avons actuellement sur les murs du labo une exposition qui est une restitution de la Gay Pride d'Amsterdam en 2017, qui a été traitée volontairement en noir et blanc pour justement éliminer toute la couleur de cet événement et se concentrer sur les regards, sur les mains, sur les...
Gens,
sur les humains, sur l'humain, pour ne pas polluer le propos.
Bien, alors, on a parlé de la couleur et du noir et blanc, le passage de l'argentique au numérique, est-ce que ça a changé les techniques et est-ce qu'on obtient des choses différentes ? Et est-ce qu'on en fait ou est-ce qu'on n'en fait plus de l'argentique ?
Alors, moi je vais parler en tant que photographe.
Oui, Judith.
Pour ma part, je ne vois pas de différence dans un tirage argentique ou un tirage numérique. Voilà. Je trouve que les qualités sont aussi bonnes. Alors, il y a des puristes qui crient au scandale. Mais bon, moi, je n'en vois pas. Souvent, d'ailleurs, on numérise nos photos. Donc, même si elles ont été tirées en argentique, après, on va les numériser. Bon, alors... je ne vois pas où est trop la différence. Et puis, j'ai oublié... Ah oui, alors si, c'est un avantage que moi, vraiment, en tant que reporter, quand je partais loin, longtemps, qu'on partait avec nos sacoches, avec 200 pellicules différents, ISO, parce qu'on savait qu'on allait travailler de nuit, etc. Il fallait avoir 36 boîtiers parce qu'on ne pouvait pas changer en cours de route nos valeurs d'ISO, et faire attention, trouver si on allait dans des pays chauds, trouver un frigidaire, donc c'était vraiment compliqué, et faire attention après, passer, de ne pas en perdre, l'horreur quoi. Alors que maintenant, avec le numérique, pas l'argentique, justement, on n'a pas tout ça, on n'est pas encombré de toutes ces pellicules.
Les cartes mémoire sont toutes petites et elles contiennent énormément.
Voilà, exactement. Et puis au niveau du tirage, moi je ne vois pas de différence.
Bon, j'ai compris, Judith, tu as abandonné l'argentique.
Non.
Ah, quand même.
Non, je n'ai pas abandonné l'argentique.
Et pourquoi tu ferais de l'argentique de temps en temps ?
Bah, de temps en temps, pourquoi pas. Là, je me suis racheté un 6-6 avec l'intention de faire un peu. J'ai toujours pas, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais j'ai quelques pellicules dans mon réfrigérateur. Bon, je n'ai pas encore trouvé le temps. Mais si, j'en ai envie, de temps en temps.
Et toi, Stéphane, le travail argentique et le travail numérique, ça a changé quelque chose ou...
Non. Alors déjà, le travail argentique revient.
Revit.
Ah. Revit. Si on prend le salon de la photo 2016, le salon de la photo 2017, en 2017, au salon de la photo à Paris, il y avait un pavillon argentique.
Un peu.
Oui, avec des conférences, avec des acteurs, avec énormément. Nous, on vend de la pellicule photo, on vend beaucoup de pellicules photo, on développe des pellicules photo. C'est quelque chose qui continue à durer, qui n'a pas forcément effectivement sa place, comme Judith l'expliquait, dans le milieu professionnel, parce qu'aujourd'hui, l'instantanéité prime. Pareil, il faut que la photo soit vite dans les rédactions, donc on n'a pas le temps. Par contre, je connais un photographe, par exemple, de mariage, qui travaille essentiellement en argentique noir et blanc, qui a développé une petite clientèle qui en vit et qui est ravi de ça. Et puis après, on va avoir beaucoup d'amateurs, d'auteurs et de pros qui vont ressortir l'argentique pour se faire plaisir un peu de temps en temps, ou des photographes de mode qui font des shootings en numérique, et à la fin du shooting, ben, ils sortent l'appareil numérique, argentique, font quelques photos pour proposer des photos un petit peu différentes à leurs clients, par exemple.
Différentes. Est-ce que si on te montre une photo, tu sauras dire si c'est de l'argentique ou du numérique ?
Si elle n'a pas été trop traitée, je pourrais dire des choses, oui.
Ah oui.
La matière argentique, c'est un peu le terme, la photo argentique a une matière.
Oui.
Là où la photo numérique est beaucoup plus chirurgicale, les capteurs aujourd'hui sont ultra précis. L'argentique a ses petits défauts, c'est moins précis, c'est moins détaillé. Et s'il y a un petit peu de grain, il y a le grain. On cherche le grain quand on fait de l'argentique. On cherche une petite matière.
On cherche le grain.
Fait une petite vibrance dans l'image intéressante. Mais tout ça, c'est le dose aussi. Hein. Encore une fois, c'est tout est affaire d'intention.
Je ne peux pas m'empêcher de citer un photographe que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé et qui malheureusement est mort maintenant. C'est Jacques Chenard d'Ichens, qui travaillait entre autres à Harakiri. Et qui disait toujours, en parlant du noir, en fait, la photo noir et blanc, ça fait patrimoine.
Bien. Que pensez-vous de cette remarque ? Là, on va abandonner un petit peu la technique. Que pensez-vous de cette remarque ? La photo est une représentation dite objective. L'homme ne représente pas le réel tel qu'il le voit, mais c'est le réel qui impressionne lui-même le capteur photographique. Il y a de quoi dire là-dessus, non ? Alors ?
Ah ouais, mais justement, on peut se poser la question, en quoi consiste le pouvoir de la photographie ?
Voilà.
Donc, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'un sujet qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas peut, par exemple, nous émouvoir lorsqu'on regarde une photo. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va capter une émotion sur quelque chose ? C'est un peu le mystère de la photographie. Et c'est peut-être aussi ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'on a quand même pas mal parlé en aparté, de ce qui fait une bonne photo ou pas une bonne photo. Et ma remarque était comment on fait une bonne photo, je ne sais pas, mais en revanche, on sait très bien quand c'est une bonne photo. Et tu parlais de l'impression, qu'est-ce qui impressionne ou qu'est-ce qui n'impressionne pas ? C'est le mystère de la photo.
Stéphane, qu'est-ce que tu en penses ?
Le mystère de la photo, le mot objectif était utilisé dans cette citation. Je parlais beaucoup de subjectif en photographie, d'intention, de l'auteur. Que veut-il faire passer comme message ? J'ai en mémoire cette photo. Malheureusement, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais certains s'en rappelleront. une photo en Afrique, famine, où on voit sur le même plan un enfant assis avec le ventre ballonné et un vautour.
Et le vautour.
Alors, je ne sais plus qui est cette photo, qui est cette photo. Mais dans la réalité, cette photo est un recadrage d'une photo où on voit où il y a effectivement un vautour, mais l'enfant n'est pas du tout seul. Il y a du monde autour de lui. Ceci étant, en recadrant, on a créé quelque chose d'absolument intense, saisissant, et qui a généré une émotion qui aurait été beaucoup moins forte si la photo en son entièreté avait été présentée. Donc la photo est un outil de communication. Il ne faut pas l'oublier.
Ce n'est pas une petite manipulation.
Alors, tu avais donné cet exemple-là, et en fait, je t'en avais donné un autre, qui était cette petite fille qui se retient, qui est dans un
pays
où le cadrage, on sait qu'elle va mourir, et on sait qu'elle est morte, et le cadrage est serré, pareil, et effectivement, mais tout autour, il y avait des gens qui essayaient de la sortir.
Alors moi, je vais vous parler d'un autre exemple, c'est la photo officielle de Churchill, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, il y avait un, vous le savez ? Il y avait un photographe qui était donc chargé de faire la photo officielle de Churchill. Et puis Churchill était là, et puis le photographe était là, il essayait, il voyait, il sentait pas, il n'arrivait pas. Churchill commence à s'énerver. À un moment donné, il sort un cigare et l'allume. Il se met à fumer le cigare, puis le photographe d'un coup se prépare, lui arrache le cigare, très étonné, il prend la photo. Et ça a été extraordinaire. Voilà. Bon. Tu m'avais dit, toi, Judith, il faut explorer toutes les possibilités du visible et de l'invisible et de la technique. De l'invisible.
Ouais, en tout cas, de ce qui est invisible à d'autres, mais que le photographe ou un œil exercé va... Alors, moi, ça a été toute une série que effectivement, Stéphane connaît bien, puisque ça, c'était mon exposition sur l'image actrice, où j'ai cherché, à la fois dans la lumière et dans la matière, mais dans des situations et dans des endroits qui peuvent paraître improbables, mais où je trouvais exactement ce que je cherchais. C'est-à-dire que je cherchais cela... cette invisibilité pour d'autres qui pouvaient voir un tas d'ordures. Et moi, je ne voyais pas du tout un tas d'ordures, mais je voyais vraiment un tableau. Donc, ça pouvait me permettre de faire ma photographie. Et c'est pour ça que j'avais appelé cette série l'image actrice. C'est-à-dire que c'est cette image qui pouvait donner des émotions et une interprétation, et qui n'est pas forcément la mienne, évidemment. Mais c'est ce que je donnais à voir aux autres.
D'accord. Et de cette interprétation, je suppose que si c'est Stéphane qui va tirer ta photo, il va essayer de faire ressortir tout ce que tu viens de dire, c'est ça ?
Bien, exactement. On va essayer de. On a parlé de texture, on a parlé de matière. Donc on va essayer dans l'interprétation de l'image à l'écran, avec les outils qui nous sont à notre disposition, de faire monter tel ou tel détail. Une pelure d'orange, une couleur particulière, voilà, structurer l'image, construire l'image, pour qu'elle lui donne son équilibre et sa force.
Que peut-on dire d'une photo intéressante, belle au plan artistique, qui parle et ouvre des champs d'émotion et de réflexion ? Je ne sais pas si j'ai donné encore d'autres choses. Accrocher le regard ? Maintenir le regard, émouvoir, interroger, interpeller, faire voyager, sidérer. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ?
Ça peut être tout ça à la fois.
Ça peut être tout ça à la fois.
Oui. Justement, on parlait du mystère de la photo. Et même à la limite, je pense que quelque part, la photo nous échappe. Parce qu'une photo, elle n'est pas toute seule. Une photo, c'est à la fois... le photographe qui regarde, donc c'est son regard. Après, il y a le regard du tireur, même s'il est très à l'écoute de celui qui a fait la photo ou de celle qui a fait la photo. Et puis ensuite, il y a c'est le spectateur qui va se mettre devant la photo et qui, là aussi, va recevoir quelque chose, mais qui est par rapport à son propre vécu.
Exactement.
Donc c'est tout ça qui est mélangé. Et en même temps aussi, c'est la destination de cette photo. Pourquoi on a fait cette photo-là, par exemple? Il peut y avoir des photos très floues, mais qui vont nous tordre les bloyaux. Et je te parlais de la photo qui a été faite à Birkenau, dans les camps, où elle n'est pas cadrée, où le photographe, qui n'était peut-être pas un photographe, mais c'était à côté du Canada, il y a un appareil photo, il se cache, il fait la photo, et c'est un témoignage très fort qui a été après à Nuremberg, etc., et partout. Et quand on regarde cette photo, ben on ne peut pas dire qu'elle est belle, on ne peut pas dire, mais en même temps, elle va nous sidérer complètement, elle va nous émouvoir, elle va peut-être nous faire pleurer. En tout cas, elle nous marque dans nos esprits. Voilà, une photo, c'est
tout ça.
C'est tout ça. Et puis, on peut avoir une photo qui est tellement belle, elle est tellement magnifique. Je pense à Irving Penn, qui faisait de la nature morte extraordinaire. Ce type, il faisait... C'est parfait. Il y a un équilibre en tout, dans la structure de sa nature morte, dans son tirage, dans ses couleurs, dans le choix de la disposition... Et on est devant un grand maître de la photo.
Et tu viens de dire pourquoi on trouve la photo belle. C'est ce que tu viens de dire, dans le cadrage, dans le ceci, dans l'harmonie. Voilà, c'est pour ça qu'on a trouvé cette photo belle, c'est ça?
Je sais pas. Oui, 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 elle est belle, elle est magnifique, elle est parfaite. Elle est extraordinaire. Mais bon, il a travaillé le mec avant de faire sa photo.
Bon, ben, on va s'arrêter de travailler deux minutes et on va écouter une nouvelle pause musicale. Et là, c'est une chanson, enfin, un morceau que je voulais que vous écoutiez tous les deux. C'est Yun Sunna qui fait avec sa voix des choses extraordinaires. On écoute. Thank you. Toujours sur l'émission Judaïsme pluriel avec Judith et Stéphane. Alors, on vient d'entendre Yon Tsunna, et moi, j'en profite pour vous dire que là, enfin, je ne sais pas si ça vous a plu, mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine créativité dans sa voix, dans ses vocalises, etc. Et ça m'amène à vous poser une question. La créativité en photo.
C'est essentiel.
Mais à part ça.
Bah, la créativité, c'est peut-être l'envie de faire. Bon, puis là, à quel niveau on se place, effectivement, encore le photographe. Il y a des moments où on n'est pas forcément créatif. Je pense à des reportages sur le terrain, des reportages de guerre. On essaye de faire de beaux cadrages, mais on est rarement dans la créativité. C'est ce qui se passe qui s'impose. Et la créativité, c'est peut-être dans notre prise de vue, dans le choix de notre objectif, dans le choix aussi d'aller travailler dans certaines lumières, donc certains pays, comme les peintres aimaient aller travailler à l'Estac pour la lumière, ou Cézanne allait dans certains endroits, ou il partait en Bretagne parce que la lumière était particulière. Et puis je crois qu'aussi, en tant que photographe, on peut avoir ce besoin de créativité. Enfin, moi, je sais que je l'ai. Travailler, par exemple, j'aime beaucoup travailler dans le brouillard. C'est quelque chose que j'aime énormément.
Donc là, tu recherches des choses.
Mais là, je recherche des choses aussi. Mmh. Oui, donc c'est une forme de créativité.
Oui,
mais là
fait.
Encore, c'est l'envie. Pour moi, c'est l'envie. Ma créativité me vient d'une envie. Alors, elle peut venir aussi de mes connaissances. Moi, je suis très, très formatée par la peinture. J'aime la peinture. Et je me suis rendu compte, par exemple, que j'ai beaucoup travaillé sur des séries et des photos, mais même en reportage, où j'étais, c'était un tableau ou quelque chose qui m'avait inspiré cette photo. Donc voilà, ça peut être notre créativité peut venir aussi d'une image qu'on a vue quelque part ou
et qui a fait son chemin.
Et qui a fait son chemin là aussi. Enfin, je sais pas.
Est-ce qu'il y a de la créativité dans le tirage?
Ah oui.
Il y en a beaucoup.
Bon.
Il y en a beaucoup, tout simplement parce qu'on est sollicité énormément par différents types de photos, différents types de photographies. Donc en permanence, on s'ajuste. En permanence, on remet en cause notre travail. Ça, c'est essentiel. Mais en photographie, il faut qu'il y ait de la créativité.
Ouais,
ce qu'on demande, ce qu'on propose. On a souvent des stagiaires, nous, qui sont en école de photo. Il y a un bac pro photo à Marseille, par exemple. Je passe leur temps à leur dire « Documente-toi, cultive-toi, aiguise ton œil. Va voir les expos de photo, va voir les expos de peinture, lis des livres. C'est en voyant les autres, en travaillant, en cherchant, en se cultivant, que l'on génère une créativité au service de son sujet, de son envie. Je vais faire telle photo. La différence entre un photographe et quelqu'un qui n'est pas photographe, c'est que le photographe va penser sa photo avant de la faire. Il va se dire, tiens, je vais faire une photo sur tel sujet. Donc, comment je fais cette photo? Quelle focale? Couleur, noir et blanc? Mannequin, pas mannequin? Modèle, pas modèle? Rue? Voilà. Penser sa photo, et là, on donne du sens à l'image.
Judith m'a dit que un bon tireur peut rattraper une photo moyenne, mais qu'un mauvais tireur peut massacrer une bonne photo.
C'est très juste. C'est très juste. On ne peut pas faire des miracles, mais on peut faire beaucoup de choses quand même.
Moi, j'ai pensé une chose. Pensez la création photographique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pensez la création photographique dans son rapport avec l'environnement, avec la science, avec la sociologie, la politique, le terrorisme, les femmes, la mode, l'éthique, la pornographie, l'érotisme, etc. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on peut trouver de la créativité dans le rapport entre ce qu'on va faire et ce qu'on a envie de faire?
On reparle d'envie. Ça peut être aussi une commande. Y a des photographes qui peuvent être très créatifs. Moi, il y en a un que je connais et qui, pour moi, est un des plus grands photographes. C'est Grégory Colbert, que j'ai découvert à une époque où il faisait simplement des photos de maillots de bain.
De ?
Maillots de bain.
Ah bon ?
Et il mettait ses modèles dans des piscines. Et il n'y a rien de plus compliqué à photographier que des carreaux de piscine, même avec le plus beau modèle qui soit dedans, avec le plus beau maillot qui soit. Et ce type, il réussissait des choses, mais extraordinaires. Et c'est comme ça que j'ai découvert Grégory Colbert, avec ses photos de maillot de bain. Et lorsqu'il a exposé, je crois que c'était en 2002 à Venise, qu'il a fait son exposition qui s'appelait Ash and Snow. Quand j'ai vu qu'il exposait à Venise, à la Biennale, je crois que dans les 8 jours, j'étais à Venise pour voir l'expo.
Bien, alors il nous reste 7 minutes. J'ai une question à vous poser, mais alors à me répondre en une minute ou deux, parce qu'après je voudrais qu'on me parle de ton exposition. Quelle question je voulais te poser? Peut-on parler de courant artistique en photographie?
Ah oui.
Oui.
Oh là.
Oh là là.
Bien sûr.
Ah oui.
Mmh. Oui, il y en a plusieurs.
Mmh. Alors,
puis tu as des écoles différentes et des pays différents. Tu as l'école russe, tu as l'école de Berlin, entre autres, tous ces gens-là. Donc, tu as un grand exemple, on en a parlé, c'est Vichniac. Qui a d'abord fait tout son travail avec ses écoles de photographes en Russie, puis après qui est parti travailler à Berlin. Donc tu as ça, et puis il y a Man Ray, tu as...
Les écoles de photo internationales proposent un enseignement qui marque les étudiants.
Ouais.
Mmh. Ils se créent en collectif, créent des mouvements, et c'est fondamental. Les photographes artistes, auteurs, ont vocation et ont besoin de se réunir pour échanger, discuter, et créer des collectifs, créer des envies, créer des besoins.
Comme les peintres.
Comme les peintres. Ils se réunissent par rapport à leurs envies.
Bien, il ne nous reste pas grand-chose comme temps, 5 minutes. Et je voudrais qu'on parle de ton exposition.
Mm-hmm.
Donc, elle aura lieu le 6 et le 7 avril. Mm-hmm. Je crois à la Cité des Associations.
À la Cité des Associations,
voilà.
Oui.
Elle s'appellera « oui. Femmes, corps, genre, sexe, dans tous leurs états
mm-hmm. ».
Je crois que tu m'as dit qu'il y aura 20 photographies.
Alors, il y a 20 tableaux.
20 tableaux.
Pour moi, ce sont des tableaux.
Oui, je comprends.
Ces 20 tableaux qui représentent... Alors, pour représenter le sexe, donc le sexe féminin, donc, j'ai choisi un seul modèle.
Très beau modèle d'ailleurs, j'ai vu des photos.
Qui est très belle. Mmh. Un seul modèle, et je lui fais prendre, donc pour moi c'est des tableaux, puisque je la mets dans des situations différentes, donc 20 fois. Donc elle a pris 20 situations, elle a vécu 20 situations pour montrer le genre, mais en même temps je voulais casser les codes. Donc, cette femme et ce genre féminin donc, devait en même temps représenter toutes les femmes, mais en même temps devait pouvoir montrer son indépendance par rapport à certains codes et en même temps, je la voulais forte, quelle que soit la situation. Et dans les tableaux, il y a des tableaux où elle est en situation difficile et de perdition, ou d'autres modèle. Et je la voulais avec un regard bien en face dans l'objectif ou affirmant certaines convictions. Ça, c'est ce que j'appelle le corps politique, par exemple. D'autres situations de femmes. Et puis, il y a un objet qui va faire le fil rouge, voilà, tout au long. Mais j'invite surtout les personnes à venir voir cette exposition, oui, parce qu'elle sera dans le cadre du Salon des publications des femmes. Et le thème, c'est la fabrique du corps.
La fabrique du corps. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. J'aurais bien aimé que tu me parles de ce bouillonnement lorsque tu as pris ces différentes photos, donc ces tableaux, avec la même personne dans laquelle tu les as mises dans des situations différentes, avec des vêtements différents, avec des postures différentes, avec des regards différents. Ça devait être pas mal.
Oui, mais c'est une équipe. C'était un travail d'équipe. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé en amont. Ensuite, le choix de mon modèle, le choix de la maquilleuse, le coiffeur et un assistant, parce que je n'arrive pas à atteindre, à allumer mes lumières, je suis trop petite. Et donc tout ça, ça a créé une espèce de ruche de en même temps qui était très gaie, même si parfois je mettais mon modèle dans des situations un peu difficiles.
Sans parler du travail du tirage, je suppose que là...
Absolument. Avez... Et là, après, il m'a fait un travail magnifique.
Bon, eh bien, je crois qu'on est arrivé à la fin. Il est temps de laisser la place à Serge pour Musique à Thème. Je vous remercie tous les deux pour tout ce que vous nous avez appris.
Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup. Merci. Et puis, voilà. Au revoir à tous nos auditeurs.
On se retrouvera peut-être.
Oui, bien sûr.
Chers amis, bonsoir et à la semaine prochaine.
C'était Judaïsme Pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.